Voyons maintenant la conduite de la réunion. Je vous propose de la scinder en deux parties. Une première partie que j'appelle « Fixer le cadre » et une deuxième partie qui est « Animer chacun des thèmes prévus à l'ordre du jour ». Voyons d'abord la première partie « Fixer le cadre ». Donc nous considérons que vous êtes l'animateur de la réunion. Et pour fixer le cadre, vous avez plusieurs phases à enchaîner. Alors il y a une phase qui est préliminaire et importante, c'est vérifier les éléments du cadre prévu. Lieu, matériel, présence des personnes, balisage de la salle de réunion, etc. Puis vous avez la phase 1 qui est l'accueil. Et je vous suggère d'accueillir physiquement chaque participant, puis d'ouvrir la réunion. La phase 2, présentation de l'animateur et de son rôle. Voici les informations que je vous suggère de donner en la matière. D'abord, qui vous êtes et à quel titre vous animez la réunion. Deuxième chose, c'est la cohérence de votre participation à la réunion. Notamment la cohérence par rapport au fait que vous n'êtes pas directement impliqué par les enjeux de la réunion, que vous avez donc une certaine neutralité et que vous avez une expérience, une compétence dans l'animation de la réunion. Ça, c'est d'autant plus nécessaire lorsque vous avez affaire à des participants qui, pour certains, ne vous connaissent pas. Troisième élément, c'est quelle est votre vision de votre rôle. Et je vous suggère très vivement, d'emblée, de préciser quelles sont vos responsabilités et quel est votre rôle. Dernier point, vos enjeux éventuels, à la fois pour vous-même et éventuellement pour les personnes que vous représentez. Donc c'est quels sont vos enjeux à vous de la réussite ou non de la réunion. Et je vous suggère de vérifier de cette façon que vos enjeux ne sont pas trop forts. Sinon vous risquez de perdre la neutralité, l'ouverture et la fluidité indispensables pour être un bon animateur. La phase 3, présentation des participants. Alors, vous pouvez proposer aux participants de se présenter en donnant les mêmes informations que celles que vous avez données. C'est-à-dire, qui est chacun, à quel titre est-ce qu'il participe à la réunion, quelle cohérence ça a par rapport, par exemple, à ses fonctions, à ses attributions, à son rôle, quelle est la vision qu'il a de son rôle dans la réunion, et ses enjeux éventuels. Concernant le processus de la présentation, vous avez deux options. La première option, chacun se présente. Et la deuxième option, c'est une présentation croisée. Les gens se mettent par exemple en binôme. Et chacun va se présenter à l'autre. Et lorsque l'on se retrouve en grand groupe, c'est la personne qui a interviewé qui présente son collègue. Ce mode opératoire est particulièrement intéressant lorsque les participants ne se connaissent pas. Lorsque dans une réunion, certaines personnes se connaissent et d'autres ne se connaissent pas, je vous suggère de proposer que les binômes soient faits entre personnes qui ne se connaissent pas. C'est une façon très simple, rapide et efficace d'augmenter de façon importante la vitesse à laquelle les personnes font connaissance. Phase 4, présenter le cadre de temps prévu et les conditions matérielles. Donc il s'agit de présenter heure de début, heure de fin, les heures de pause éventuelles, les heures de repas, et de vérifier que le temps qui est prévu est un temps réaliste. Et je vous suggère de proposer un temps plus important si l'un des objectifs de la réunion est que les participants fassent connaissance. Dans ce cas, les temps de pause prennent une importance très grande. C'est le cas aussi, par exemple, de personnes qui font partie d'une équipe mais qui sont rarement ensemble. Par exemple, des directeurs régionaux qui sont la quasi-totalité du temps chacun dans leur région. Il est important, au-delà des temps d'échange structurés, d'avoir des temps de pause conséquents où beaucoup de choses vont se dire et qui sont des choses très importantes. Lorsque vous avez présenté le cadre de temps et les conditions matérielles, vous devez demander aux participants de valider ce cadre. Et si l'un des éléments du cadre pose problème à un participant, par exemple les horaires, ce n'est pas à vous, l'animateur, de trouver une solution. Vous devez en référer au groupe et lui demander de rechercher des options et de définir sa position. C'est au groupe de le faire. Phase 5, proposer des règles de fonctionnement. Alors, je vais vous présenter des règles fondamentales que je propose systématiquement. Il y en a quatre. La première, c'est le respect des personnes. Et cette règle se décline en quatre consignes que l'animateur propose aux participants. La première consigne, c'est pas d'agression physique ni verbale. La deuxième, c'est ne pas interrompre une personne lorsqu'elle parle. La troisième, c'est lorsque j'ai une différence de point de vue avec une personne, c'est de, juste avant d'exprimer cette différence de point de vue, regarder comment je vais pouvoir l'exprimer de telle façon que mon interlocuteur puisse ne pas vivre ma différence de point de vue comme une agression. Donc il s'agit de le faire de façon claire et bienveillante. Et l'idée qui est derrière, c'est que quand deux personnes n'ont pas le même point de vue, il n'y a pas forcément un abruti dans les deux. C'est simplement qu'elles n'ont pas le même point de vue. Quatrième élément qui relève du respect des personnes, c'est pas d'aparté. La deuxième règle que je propose, c'est la règle de réactivité. Et la règle de réactivité, elle dit la chose suivante. Si une personne n'est pas en accord avec le contenu ou le processus, et que cela entraîne pour elle un risque de retrait ou de ressentiment, mécontentement par exemple, elle doit le dire. Elle doit le dire en respectant le point précédent concernant le respect des personnes. Mais elle doit le dire. Elle ne doit pas rester avec. Troisième règle, c'est la règle de confidentialité. Et là, il est nécessaire de définir avec les participants quels sont les éléments qui doivent rester confidentiels et quels sont les éléments qui sont non confidentiels. Et une fois que la répartition est faite entre éléments confidentiels et éléments non confidentiels, il s'agit de demander à chacun le respect strict de la confidentialité. Je voudrais apporter une précision concernant la confidentialité. J'ai participé à de nombreuses réunions dans de nombreuses structures et les participants à ces réunions étaient toujours des professionnels conscients de leurs responsabilités. Et très souvent, mes interlocuteurs m'ont fait part de fuite, c'est-à-dire de non-respect de la règle de confidentialité. Et j'ai constaté que souvent la règle de confidentialité, qui est toujours vécue comme une évidence, est interprétée de façon que j'appellerais élastique. Et elle est retraduite dans l'esprit d'un certain nombre de personnes par « je m'interdis de donner les informations confidentielles, sauf à des personnes en qui j'ai pleine et entière confiance ». Et avec cette impression que ces personnes-là ne font pas partie des exclus par la règle de confidentialité. Et donc, ce qui se passe, c'est que le cadre, par exemple, ne parlera pas à ses collaborateurs des éléments confidentiels, sauf à un collaborateur en particulier pour lequel il a la plus pleine et entière confiance. Et à juste titre, d'ailleurs. Le problème, c'est que lui-même va demander au collaborateur la confidentialité, et ce collaborateur aura la même vision élastique, c'est-à-dire que le collaborateur va s'engager de bonne foi, et il va retraduire en « bien sûr, je n'en parlerai à personne, sauf à, mais ça c'est sans le dire, sauf à telle ou telle personne en qui j'ai pleine et entière confiance ». Et comme ça, de personne en qui une personne a pleine et entière confiance, jusqu'à une autre, on arrive progressivement à une information qui circule dans les couloirs. Et c'est une information à la fois qui circule dans les couloirs et une information où chacune des personnes qui s'est engagée à la règle de confidentialité a sincèrement l'impression qu'elle a respecté cette règle. Donc je vous suggère de définir de façon très précise, à partir du moment où la règle de confidentialité est posée sur un élément, ça veut dire que nous, chacun s'engage à en parler à personne et qu'il n'y a pas d'exception, ou s'il y a une exception, l'exception doit être validée par le groupe. Voyons maintenant deux règles particulières qui concernent uniquement les réunions successives, donc les réunions qui se reproduisent. La première, c'est la règle de ponctualité. Donc la règle que je propose, c'est nous respectons les horaires prévus. Donc concernant le début de la réunion, l'animateur doit proposer au groupe de définir ses règles en la matière. Un exemple de règle, chaque participant prend les dispositions nécessaires pour être ponctuel. En cas de retard, la personne prévient l'animateur lorsque c'est possible. De toute façon, la réunion commence à l'heure, et lorsque le participant en retard arrive, il se raccroche discrètement à la réunion. Et on ne s'arrête pas pour lui, et on ne refait pas ce que l'on a fait dans le début de la réunion. Une autre règle que je suggère concernant la fin de la réunion, si le travail n'est pas fini, à la fin de la réunion, l'animateur informe le groupe que son rôle est de l'alerter et de lui demander de décider l'option qui sera retenue. Donc là aussi, le rôle de l'animateur n'est pas de résoudre le problème. Le rôle de l'animateur, c'est d'alerter le groupe. Et c'est au groupe de définir quelle modalité il met en place. Ça peut être, par exemple, tous continuent après avoir défini une nouvelle heure de fin. Autre exemple de décision prise par le groupe pour gérer, certains continuent. Exemple encore, tous s'arrêtent après avoir défini les modalités de la suite. Deuxième règle liée aux réunions récurrentes, la présence. Donc là, je suggère la règle qui dit en cas d'absence d'un participant, ce dernier doit informer. Donc il s'agit qu'il ait les informations sur qui il doit informer. Et en la matière, il y a deux cas. Le premier cas, c'est la personne le sait à l'avance. Donc la règle, c'est de prévenir. Ça peut être par exemple de prévenir l'animateur. Cela peut permettre à ce dernier, à l'animateur, premièrement de détecter éventuellement une méconnaissance. Une méconnaissance, c'est le participant qui ne se rend pas compte de quelque chose. Par exemple, la méconnaissance de l'importance de sa présence. Ça lui permet aussi éventuellement de détecter une crainte. Par exemple, la personne explique qu'elle ne viendra pas. Et en fait, en travaillant avec elle des raisons, au-delà des raisons officielles, on s'aperçoit que derrière, il y a une crainte. Par exemple, c'est la crainte d'être prise à partie. Et donc là, le travail de l'animateur, ça va être de rassurer la personne, notamment en lui rappelant les règles de bienveillance et en lui rappelant que son rôle en tant qu'animateur est de faire respecter ces règles. Il peut aussi détecter éventuellement un problème qui est lié à une autre personne. Par exemple, la personne est d'accord pour venir, c'est son chef qui ne veut pas. Et donc, dans ce cas-là, l'animateur devra intervenir auprès des commanditaires de la réunion pour vérifier quelle est la cohérence entre l'objectif de la réunion d'une part et la position du chef de cette personne. De plus, le fait du contact entre l'animateur et la personne qui dit ne pas pouvoir venir, permet, au-delà du diagnostic, de rechercher des options pertinentes. Alors les options, ça peut être par exemple, ok, confirmation qu'elle ne vient pas. Ça peut être réunion décalée. Autre option, une autre personne la remplace. Ou éventuellement, on peut même modifier l'ordre du jour. Mais là, il s'agit d'une modification qui est gérée de façon rationnelle. Et il ne s'agit pas d'une modification qui est imposée au dernier moment à l'animateur et au groupe parce que le groupe s'aperçoit ou apprend au démarrage que telle personne qui devait faire une présentation n'est pas présente. Et donc il faut reconstruire tout ou partie de l'ordre du jour, des objectifs et des modalités de fonctionnement de la réunion. Deuxième cas d'absence, c'est l'absence d'une personne est constatée au démarrage de la réunion. Dans ce cas-là, le rôle de l'animateur est le suivant. Il doit demander au groupe de rechercher les ajustements qui deviennent nécessaires eu égard à l'absence de la personne. Mais attention, il ne doit en aucun cas prendre les enjeux qui ne correspondent pas à son rôle. C'est-à-dire, en aucun cas, il doit chercher lui les solutions pour gérer cette difficulté liée à l'absence d'une personne. Ce n'est pas à lui de le faire. Parce que ça peut le conduire, par exemple, à vouloir maintenir la réunion à tout prix. Et donc à partir de là, il risque d'être confronté en cours de réunion par des participants sur le fait que c'est incohérent de maintenir cette réunion eu égard à l'absence de la personne concernée. Ce que doit faire l'animateur dans ce cas-là, premièrement, c'est informer le groupe de l'absence de la personne. Et deuxièmement, c'est de demander au groupe et d'accompagner le groupe à rechercher les options. Qu'est-ce qu'on fait ? Phase 6, toujours dans la démarche de fixer le cadre, c'est organiser l'ordre du jour. Et je propose la démarche suivante. D'abord, lister les points à l'ordre du jour. Puis, accompagner le groupe à définir le temps consacré à chaque point. Alors, peut-être que certains de ces éléments ont été élaborés pendant la préparation. Par exemple, il est prévu que telle personne fasse une présentation d'un outil démarche ou d'une organisation et le temps a déjà été prévu. Et la personne a préparé son intervention en fonction du temps qui lui affectait. Et là, il s'agit de présenter ce qui a été prévu et de demander au groupe s'il valide cette organisation et donc le temps qui est prévu pour la présentation. Une fois que le temps pour chaque point a été défini, troisième élément, déterminer l'ordre des points. Et il y a deux points que vous devez impérativement prévoir à la fin de la réunion. Le premier point, c'est le feedback de chaque participant, c'est-à-dire c'est un temps pendant lequel chacun des participants pourra s'exprimer sur la vision qu'il a du fonctionnement de la réunion et comment il l'a vécu. Et le deuxième point, c'est la suite. Il s'agit de définir quelle suite sera donnée à cette réunion. Et ces deux points doivent être systématiquement mis à l'ordre du jour. Et vous devez veiller à ce que le temps imparti à chacun de ces deux points soit préservé. Donc les six phases que je viens de vous présenter vous permettent de démarrer une réunion et de construire un cadre qui est un cadre solide, clair et protecteur à la fois pour vous-même et pour chacun des participants.